Bonjour et bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le haut-commissaire Jacques Billon. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation maintenant que vous êtes sorti de la période de réserve imposée par toute la période électorale. Alors comment se sont passées d'ailleurs ces élections provinciales du point de vue du haut-commissariat? Je ne vais pas vous demander un jugement ou une analyse politique, mais vous avez mis en place tout un dispositif pour suivre et préparer et organiser ces élections en liaison avec les communes. Vous deviez également assurer la sécurité du scrutin. Globalement, tout s'est bien passé?
Oui, pour les élections provinciales, j'avais trois priorités. La sécurité matérielle, la sécurité juridique et la sécurité publique de ces élections. Et au bilan, je vous l'affirme, ces élections se sont très bien passées, à l'exception de l'événement à l'île des Pins, qui ne visite pas directement l'organisation du scrutin. Nous n'avons finalement déploré aucun incident. La campagne s'est déroulée dans un climat serein et les résultats n'ont pas donné lieu à contestation. Et c'est quelque chose dont on peut collectivement se satisfaire. Et je tiens ici à remercier l'ensemble des agents mobilisés pour ce moment démocratique important et si attendu par les Calédoniens. Je pense bien sûr aux agents de l'État, aux fonctionnaires de police, de gendarmerie et à tous les fonctionnaires territoriaux des communes.
Et voilà, toutes les communes étaient vraiment très impliquées dans ce... Ça leur demande beaucoup de travail de préparer les élections.
Oui, elles ont été au rendez-vous.
Alors vous avez aussi des renforts de forces de l'ordre pour cette période sensible, vous nous en aviez parlé. Il devait rester jusqu'à la mi-juillet a priori, alors quel est l'état des forces aujourd'hui? Est-ce que les effectifs ont effectivement diminué?
Pour la campagne provinciale et jusqu'à l'installation du Congrès, nous avons pu bénéficier, à ma demande, de 4 escadrons de gendarmes mobiles supplémentaires. Comme convenu avec le ministre de l'Intérieur, ces derniers ont bien quitté le territoire à la mi-juillet et nous sommes aujourd'hui au même niveau de force que la période avant les élections, c'est-à-dire 12 escadrons en renfort, ce qui, je le rappelle, est un effort très important du ministère de l'Intérieur pour la Nouvelle-Calédonie. Ce sont 840 gendarmes en renfort, ce qui porte le nombre total de policiers et gendarmes présents en Nouvelle-Calédonie à 2000.
Et cet effort va durer longtemps, à votre avis? La situation justifie qu'on maintienne comme ça des renforts de forces de l'ordre?
C'est un dialogue que j'ai en permanence avec le ministre de l'Intérieur. Et à ce titre, j'ai rendez-vous avec lui dès la semaine prochaine pour faire le point.
Alors justement, l'un de vos gros dossiers, bien sûr, c'est celui de la sécurité publique. Quelle est la situation de la délinquance de la sécurité publique 2 ans après les violences insurrectuelles de 2024? On sait que vos services ont publié le bilan de la délinquance 2025. C'était assez mitigé quand même.
Oui, sur l'année 2025, on a déjà pu observer une baisse, et c'est important, des violences de type urbaine. Je pense aux feux, aux dégradations, aux jets de projectiles. Et cette baisse est encore plus importante depuis le début de l'année 2026. Cette baisse nous ramène finalement au niveau auquel on se situait en 2023. Ce qui montre que la délinquance urbaine est désormais contenue et que la situation sur le territoire est pacifiée. En revanche, et vous avez raison d'insister sur ce point, l'évolution de la délinquance d'appropriation est, quant à elle, préoccupante, particulièrement
les cambriolages d'habitation. On sait pourquoi, d'ailleurs, est-ce qu'on a une explication? Pourquoi est-ce qu'il y a cette multiplication des cambriolages d'habitation et comment est-ce qu'on peut y faire face?
On voit que la délinquance a évolué depuis 2023, depuis les événements de 2024, et qu'aujourd'hui, nous avons à faire face à une délinquance d'appropriation plus importante que celle qu'on avait connue précédemment. C'est la raison pour laquelle il nous faut agir.
Et vous agissez comment, si je puis dire? Vous avez des... Ça veut dire multiplier les patrouilles, multiplier la présence sur le terrain, dans les zones sensibles, notamment au milieu urbain, j'imagine?
Oui, vous savez que j'ai fixé 6 objectifs stratégiques pour 2026. Le premier, c'est la lutte contre les cambriolages. Et cette action se situe dans le cadre de ce que j'ai appelé un plan d'action pour restaurer la sécurité du quotidien, voulu par le Premier ministre et porté par l'État localement. Avec des priorités que j'ai souhaitées très opérationnelles, les cambriolages, bien évidemment, mais pas seulement les cambriolages. J'ai aussi en objectif le trafic de drogue, la lutte contre la haine en ligne, la lutte contre les violences intrafamiliales. Et concernant les cambriolages, puisque vous me posez la question, les cambriolages de logements. Je vous le répète, l'augmentation est toujours préoccupante en 2026. 923 cambriolages recensés depuis le début de l'année contre 785 à la même époque l'an dernier. Alors, pour y faire face, vous avez raison de dire que la présence sur le terrain est essentielle, tout comme l'équipement des communes en vidéoprotection. Et sachez qu'en 2025, l'État a financé au profit des communes de nouvelles caméras de surveillance, de vidéosurveillance, pour 22 millions de francs. Et cela doit nous permettre d'avoir une réponse plus efficace des forces de l'ordre. Je rajouterai qu'en 2025, le taux d'élucidation des cambriolages en Nouvelle-Calédonie était de 33%, alors qu'il se situe à 7% au niveau national. Près de 1000 personnes, c'est important, près de 1000 personnes ont été interpellées pour ce type de fait. Donc nous sommes présents sur le terrain et nous avons une action que je souhaite vraiment très opérationnelle pour lutter contre ce fléau.
Alors vous parlez de ces 6 objectifs stratégiques que vous aviez fixés, que vous avez fixés pour 2026, mais tout ça s'intègre dans le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance qui lui concerne la période 2026-2028. Quels sont les objectifs réels? Quels résultats vous attendez au bout de cette période 2026-2028? Un retour à une pacification, entre guillemets, totale?
Oui, c'est l'objectif. Alors, il y a deux choses. Nous avons effectivement un plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance qui est porté à la fois par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et par l'État. Et les deux axes majeurs que nous avons retenus avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, c'est la lutte contre les addictions et la lutte contre les violences intrafamiliales. Et nous avons enregistré en la matière déjà des avancées notables avec le rachat d'un nouveau matériel de bioanalyse au sein du Medipol qui va permettre aux forces de sécurité de faire des dépistages massifs de stupéfiants. Nous l'appelions de nos voeux. C'est désormais une réalité. Et nous travaillons aussi, bien évidemment, avec tous les acteurs, au premier rang desquels le gouvernement et les provinces, sur la question de la prise en charge des femmes victimes de violences, tant en matière d'hébergement d'urgence, de transport, mais également d'accompagnement à l'insertion grâce à l'octroi de logements durables.
Alors, on sait que les violences intrafamiliales, c'est un vrai problème en Nouvelle-Calédonie, avec des chiffres qui sont toujours extrêmement préoccupants et inquiétants. Il y a une loi sur la protection de l'enfance qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle va être appliquée en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que c'est un instrument supplémentaire pour lutter contre ces violences?
Oui, en tout cas, on travaille, je dirais, en permanence avec le gouvernement pour adapter les mesures à la situation de la Nouvelle-Calédonie. Et en la matière, sachez que nous avons d'ores et déjà renforcé nos dispositifs de coopération avec l'ensemble de nos partenaires. Je pense notamment à l'association SOS Écoute, qui tient des permanences téléphoniques pour les femmes victimes de violences intrafamiliales. Mais nous travaillons également avec les centres d'hébergement d'urgence. Et si nous travaillons avec ces associations pour renforcer les dispositifs et les rendre plus efficaces, c'est bien, je dirais, pour répondre aux objectifs de mise en sécurité des victimes, de prise en charge médicale, d'accompagnement juridique et d'accès aux droits pour toutes les victimes et leurs enfants. Et sur le chiffre, pour être complet, sur le chiffre des violences intrafamiliales, nous observons malgré tout une stabilité, voire une légère baisse par rapport à l'an dernier. Nous sommes tout de même à 1607 faits depuis le début de l'année, dont 1108 concerne des violences conjugales et 263 des violences sur mineurs. Je crois qu'il est important d'avoir ces chiffres en tête au regard de la pression de cette délinquance sur les Calédoniennes et les Calédoniens.
C'est vraiment presque endémique, c'est culturel en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il ne faut pas avoir passé à la vitesse supérieure pour essayer de régler vraiment le problème aujourd'hui?
C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait avec le procureur de la République, avec l'ensemble des acteurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons réaffirmé avec le gouvernement, dans le cadre du plan 2026-2028, que ça devait rester la priorité. Nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde en la matière. Et j'ajoute une chose. Ça concerne les violences sexuelles. Et je crois que c'est important de le rappeler parce que les violences sexuelles sont en constante augmentation. C'est un phénomène nouveau auquel nous sommes confrontés en Nouvelle-Calédonie. 331 faits depuis le début de l'année depuis le début de l'année 2026 contre 264 en 2025. 184 en 2022. Donc on voit bien que ces violences sexuelles ont quasiment doublé en 4 ans, ce qui veut dire, certes, que les victimes vont plus facilement porter plainte, mais cela aussi signifie qu'il faut vraiment augmenter la prévention pour réprimer ces délits intolérables, un travail que nous continuerons bien sûr de mener avec le nouveau gouvernement.
Vous parliez de la lutte contre les addictions et contre le trafic de stupéfiants, c'est aussi l'un de vos axes stratégiques. En métropole et dans plusieurs outre-mer aujourd'hui, on lutte carrément contre le narcotrafic. On n'en est pas là quand même en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, ça reste... Il y a du trafic, il y a de la consommation, mais ça n'a pas atteint encore les dimensions que ça a ailleurs.
Non, on n'est pas confronté à ce phénomène de narcotrafic. Pour autant, la lutte contre le trafic de stupéfiants reste une priorité pour mes services. Nous sommes totalement mobilisés en matière de lutte contre les stupéfiants. La preuve, en 6 ans, nous avons doublé le nombre d'infractions liées au trafic de stupéfiants grâce aux investigations, aux infractions révélées par l'activité des services, avec près de 1000 faits constatés depuis le début de l'année. Et sachez que depuis le début de l'année 2026, ce sont aussi des milliers de plants de cannabis qui ont été détruits par les policiers, les gendarmes et les douaniers sur le territoire, ainsi que plusieurs kilos d'herbe. Ça nécessite une coopération de tous les acteurs et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité réactiver la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants. C'est une cellule qui fonctionne, je dirais, dans de nombreux territoires de métropole et on l'appelle la CROSS pour pouvoir vraiment travailler en coordination au niveau du renseignement, des enquêtes. Et tout ça, bien sûr, avec les acteurs de terrain que sont les douaniers, les policiers, les gendarmes.
Alors le cannabis, je dirais, on y est habitué en Nouvelle-Calédonie. Enfin, je veux dire, on sait qu'il y a des plantations, des consommateurs. Mais la nouveauté, c'est l'irruption de drogues dures, la cocaïne, voire l'ice. Est-ce que vos services sont prêts à lutter contre ces nouvelles drogues qui ont des conséquences encore plus dramatiques, si on peut dire, sur l'état de santé et puis sur le sociologiquement.
Oui, vous parlez des drogues dures, des drogues de synthèse. Si la Nouvelle-Calédonie est bien sur la route d'un trafic mondial de stupéfiants, elle n'est pas à ce stade un pays d'arrivée de ces substances, mais il faut quand même être sur nos gardes et prévenir ce phénomène qui pourrait arriver. Si on ne fait rien, ça arrivera sans nul doute. Ça nécessite à ce titre une grande coopération régionale en matière de renseignement avec les pays voisins. C'est ce que nous faisons avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi avec les États-Unis et les pays d'Amérique du Sud. Et à ce titre, sachez que nous avons souhaité mettre en place un séminaire régional de lutte contre le trafic de stupéfiants qui sera organisé ici, à Nouméa, d'ici la fin de l'année, dans la continuité d'un séminaire régional que nous avions déjà organisé avec les douanes en mars dernier. Et concernant les saisies sur le sujet des stupéfiants, sachez que c'est environ une cinquantaine de kilos de cocaïne qui ont été saisies en 2025 grâce à des opérations de démantèlement de trafic. Et la plupart de ces procédures concernaient des transbordements ratés entre trafiquants au large de nos côtes, au large des côtes australiennes et néo-zélandaises, et qui ont dérivé jusqu'à nos côtes.
C'était arrivé par accident.
Et c'est ce qu'on a connu à l'île des Pins récemment. Voilà, nous avons aussi saisi en 2025, et je voudrais le dire devant tous les Calédoniens, environ 800 grammes de drogue de synthèse, MDMA, Ecstasy, LSD. Et à ce titre, je le répète, s'il n'y a pas de trafic organisé qui était décelé à ce stade en Nouvelle-Calédonie, nous avons réalisé de belles affaires, ce qui signifie que ces drogues dures existent tout de même sur le territoire. C'est la raison pour laquelle je fais un cheval de bataille.
Il faut faire de la prévention, il faut faire de l'information auprès des consommateurs éventuels.
Et puis, de la réprimer... la consommation illicite, le trafic illicite et la consommation de ce type de substances dont on sait qu'elles sont destructrices.
Alors, autre objectif, la lutte contre la haine en ligne et les menaces aux élus, les violences urbaines, la subversion violente. Ça reste une préoccupation sur le territoire deux ans après les émeutes. On a l'impression que c'était que ça a été un peu un paroxysme à ce moment-là, mais ça continue à exister aujourd'hui, il faut toujours s'en prémunir.
Bah, concernant les violences urbaines, je vous confirme que la situation est aujourd'hui stabilisée et que nous sommes bien revenus à un niveau comparable à celui de 2023. Concernant la haine en ligne, j'en ai fait là aussi une priorité. Ça fait partie des 6 axes que j'ai mentionnés il y a quelques instants. Une priorité pour les forces de l'ordre. Le niveau de saisine et d'enquête est stable par rapport à 2025, environ 150 affaires. Mais je ne souhaite rien laisser passer. Je le dis, rien laisser passer sur ce sujet sensible. Et sachez que, par ailleurs, nous sommes en relation avec les principales plateformes numériques, je pense à Meta, X, TikTok, hein, qui nous ont fait savoir qu'elles étaient très soucieuses de la lutte contre la haine en ligne. Et elles ont souhaité renforcer la coopération avec les services de l'État en Nouvelle-Calédonie en la matière.
Ah, il y a aussi la lutte contre les ingérences extérieures. Et là, on a une nouvelle illustration avec les récents propos du président de l'Azerbaïdjan. Quelle va être la réponse de la France ? Les Calédoniens s'interrogent un peu en se disant, bon, on a vu les dégâts possibles qu'avait pu faire une ingérence de l'Azerbaïdjan. Est-ce qu'on va les laisser recommencer, quoi ?
Bon, moi, je ne reviendrai pas sur les déclarations récentes des autorités azéries. Les parlementaires de Nouvelle-Calédonie, et notamment le député Metzdorf, a eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet. Il a saisi le ministre des Affaires étrangères. Néanmoins, je souhaite, à mon niveau, insister sur la mobilisation de l'État sur ce sujet de l'ingérence, et notamment de l'ingérence informationnelle d'autorités étrangères. Et je rappelle à ce titre que j'en ai fait un des axes de la sécurité de ces élections provinciales en mettant en place un dispositif de protection des élections pour prévenir ce type d'acte en lien avec les services du Premier ministre qui étaient vraiment très engagés sur ce sujet, sachez-le.
Et il n'y a rien eu pendant les élections ? Vous nous aviez dit que ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'intervention ?
Non, je vous ai tenu régulièrement informé. Hein, nous avons été en veille constante, en mesure, je dirais, de réagir. Si cela s'était produit, nous n'avons pas eu à déplorer ce type d'ingérence informationnelle, en tout cas pendant la période des élections provinciales. C'est heureux.
Autre thème de mobilisation et là aussi, c'est vraiment récurrent, la lutte contre l'insécurité routière. Alors, on va être prudent, mais on a l'impression que bah, ça va mieux, que les chiffres sont moins catastrophiques qu'ils ont été ces dernières années. C'est vrai, et à quoi c'est dû ? Parce qu'on avait atteint des chiffres exceptionnels en Nouvelle-Calédonie.
Oui, c'est un constat. Le nombre de morts a drastiquement baissé ces deux dernières années. Rappelez-vous, 70 personnes décédées en 2022, 51 en 2023 et 34 en 2025. C'est 34 décès de trop. Mais ce résultat, cette baisse, est indéniablement à mettre au crédit d'une présence importante des forces de l'ordre sur le terrain et d'un nombre important de contrôles routiers. J'aurais simplement cité ce chiffre. Ce sont près de 15 000 contrôles routiers qui ont été opérés en 2026 par la police et la gendarmerie, qui font aussi, bien sûr, de la lutte contre l'insécurité routière une priorité au regard des chiffres dramatiques hein, que je viens de rappeler.
Là aussi, c'est la peur du gendarme qui finalement produit des effets.
Oui, il n'y a pas...
Et là, c'est lié bien sûr à la lutte contre les abus d'alcool, c'est aussi l'une de vos priorités. Notamment, vous prenez assez souvent des arrêtés interdisant la vente, la consommation d'alcool à l'occasion de manifestations, de rassemblements. C'est efficace, ça, parce qu'on dit toujours les gens font des stocks, oui. se prémunissent, avancent.
Vous dites assez souvent, je dirais de temps en temps, puisque nous savons combien les décisions de fermeture de vente d'alcool sont lourdes de conséquences hein, pour certains commerces qui en dépendent. Je prends donc ces décisions avec une grande proportionnalité. Et pour autant... Vous pouvez constater, comme moi, que les effets sur le terrain sont très significatifs, puisqu'au bout de 3 jours d'interdiction de vente d'alcool, tous les chiffres de la délinquance baissent drastiquement. Je pense aux violences intrafamiliales, aux violences urbaines, aux vols, aux accidents de la route. C'est malheureusement la seule mesure réellement efficace, mais je le répète, je l'utilise avec parcimonie, car je sais combien elle est dommageable pour certains commerces et certaines entreprises. À chaque fois que ça sera nécessaire, je continuerai de le faire, bien évidemment.
Je disais assez souvent, parce que quand ça a été mis en œuvre en métropole récemment, ça, c'était complètement exceptionnel et ça a eu l'air de surprendre tout le monde, alors qu'en Nouvelle-Calédonie, on est relativement habitué à ce type de dispositif. Mais...
C'est ce que me disait la directrice de cabinet du ministre de l'Intérieur, c'est qu'on avait fait école en matière d'interdiction de vente d'alcool lorsque les décisions ont été prises de procéder à ces interdictions, notamment au début de la période de canicule en métropole.
La métropole,
et
pour exemple,
à l'occasion de la fête de la musique.
C'est la Nouvelle-Calédonie. L'État qui est très présent également, alors dans un autre domaine, c'est celui de l'aide financière à la Nouvelle-Calédonie. On sait que c'est un élément essentiel dans cette période de reconstruction. Le pacte de relance et de refondation, alors, il a été signé, il a été acté après Élisée Oudinot. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est tout ce qui reste de l'accord de Bougival, mais ça reste, c'est incontestable, lui.
Oui, votre question est très réductrice. Bien sûr que le pacte reste. Pourquoi ? Parce qu'après les épreuves traversées par le territoire en 2024, l'État a fait un choix. Et ce choix, c'est celui de la solidarité nationale, c'est celui de la responsabilité. Et ce pacte a vraiment vocation à marquer une nouvelle phase, celle de la relance, celle de la confiance retrouvée dans l'économie. Et il vise à donner de la visibilité et de la confiance à tous les acteurs économiques du territoire. Ils en ont besoin, nous en avons besoin. Et je voudrais, je dirais à ce titre, rappeler les priorités que nous avons retenues au titre du pacte. D'abord, en un, favoriser l'attractivité des entreprises. Ce sont 6 milliards de francs qui sont consacrés en ce début d'année 2026 et jusqu'à la fin de l'année au report des cotisations RUAM des entreprises. Il s'agit aussi de continuer à financer l'activité partielle. Nous nous sommes engagés à le faire dans le cadre du pacte jusqu'à la fin de l'année 2026. Après, et on en reparlera sans doute un peu plus longuement, c'est l'investissement dans les infrastructures essentielles. C'est le plan de relance avec 17 milliards de francs de l'État, d'ores et déjà investis dans les projets des collectivités, avec un financement, je le rappelle, à 100%, et dont la deuxième vague vient d'être annoncée par mes soins il y a quelques jours. Le troisième pilier consiste à investir dans un modèle durable de nickel. C'est le travail que nous allons poursuivre avec le futur gouvernement de Nouvelle-Calédonie pour arrêter une stratégie de retour à une rentabilité des entreprises métallurgiques du territoire.
C'est essentiel, on imagine, pour la relance.
C'est essentiel, on sait combien la filière nickel pèse en termes d'importance sur l'économie calédonienne. Le quatrième, je dirais, volet, c'est l'investissement dans la jeunesse. On a beaucoup parlé de la jeunesse pendant les campagnes des élections provinciales, et à juste titre, puisque nos efforts doivent se tourner vers cette jeunesse calédonienne, et c'est l'objectif pour nous de création de 1000 solutions d'insertion, notamment des postes de service civique, mais également des chantiers d'insertion au cours de cette année 2026, et on le fera pendant les 5 ans qui viennent, la création d'une nouvelle compagnie du RSMA, dont l'annonce va être faite dans les prochains jours par la ministre des Outre-mer, et puis la création de 100 postes de travailleurs sociaux pour accompagner les jeunes qui en ont le plus besoin. Le cinquième volet, c'est le rétablissement des financements publics. C'est ce qu'on connaît sous le vocable prêt garanti par l'État. Et ce sont aussi les 7 milliards de francs de subventions de l'État pour permettre à la Nouvelle-Calédonie de couvrir son budget au cours de cette année 2026. Et le dernier, et pas le moindre des piliers, c'est celui qui consiste à renforcer la cohésion sociale par des actions de proximité. Tout le monde connaît désormais la dotation de solidarité rurale qui a été alloué aux collectivités pour financer l'aide alimentaire, les aides d'urgence pour les familles, la baisse des tarifs à la cantine, les aides au transport scolaire. C'est 24 milliards de francs, c'est 2,4 milliards de francs de dotation de solidarité républicaine en 2026 et 1,2 milliard de francs prévus pour prolonger l'action parce que c'est nécessaire. En 2027.
Quand certains disent que c'est insuffisant, ça vous agace? Vous trouvez que l'aide est quand même conséquente qu'apporte l'État à la Nouvelle-Calédonie?
Moi, je dis qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire et c'est la raison pour laquelle nous voulons vraiment que ce pacte ait des incidences ou des vraiment très opérationnels sur le quotidien des Calédoniennes et des Calédoniens. L'objectif, c'est de changer en mieux leur vie. Et c'est le sens des six piliers que je viens de rappeler.
Alors, on en est à la vague 2 du plan de relance, hein, vous le disiez, mais il y avait eu une vague 1, naturellement, avec 54 projets pour 6,8 milliards. On en est où dans la mise en œuvre de cette vague 1 avant de voir la vague 2 ? Est-ce que effectivement les projets se sont concrétisés ? Est-ce que les collectivités ont mis en œuvre les projets qui avaient été sélectionnés et financés ?
Oui, sachez que concernant la vague 1, les appels d'offres ont été lancés, pas tous, mais un grand nombre d'appels d'offres ont été lancés par les collectivités suite à la sélection, je dirais, des projets que j'ai pu faire. Et nous pouvons d'ores et déjà dire que ce sont 106 entreprises qui sont attributaires des marchés de travaux, hein, donc qui démarrent et vont se poursuivre au cours des prochaines semaines. Et ça, je dirais, c'est un signe vraiment très positif et très attendu par le monde économique. 106 entreprises attributaires de ces travaux pour, je dirais, un montant, je dirais, important, hein, puisque je vous rappelle que, je dirais, la vague 1, ce sont 57 opérations qui ont été retenues. C'est suivi aujourd'hui par la vague 2, vous l'avez dit. La vague 2, c'est 50 opérations pour une enveloppe de 10 milliards, je dirais, de francs. Voilà. Moi, je considère que ce plan de relance, il faut le voir comme un plan d'investissement massif. Un plan d'investissement rapide. Il y a des critères thématiques pour choisir les projets.
Alors, ça choisit comment ? C'est vous qui sélectionnez au dernier moment ? Enfin, les collectivités font des propositions et vous êtes chargé, vous, quand même, de retenir ceux qui vont être effectivement dans la vague.
Oui, je vais vous l'expliquer parce que je pense que c'est important pour donner de la lisibilité sur le sujet. D'abord, il y a des critères thématiques qui ont été inscrits, hein, dans le courrier du Premier ministre de février dernier pour présenter le plan de relance aux élus et aux Calédoniens. Les critères thématiques, c'est la diversification économique, notamment l'agriculture, la pêche, le tourisme. C'est le désenclavement, je pense aux projets de ponts, de radiers, de routes, de berges. L'amélioration de l'accès aux services essentiels, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est la construction d'une cuisine centrale, à marée, mais c'est aussi des services d'incendie et de secours. Et puis, c'est la protection face au changement climatique. Je pense bien sûr à l'érosion côtière, à la sécheresse, au risque d'éboulement. Ça, ce sont les critères thématiques. Mais le critère principal, pour moi, au moment de la sélection, c'est la maturité des projets. Je regarde vraiment les dossiers pour voir s'ils sont suffisamment matures et pour savoir s'ils ont la capacité à démarrer dès cette année 2026.
Oui, parce que les délais sont très courts.
Pas un nouveau contrat.
Ça doit être lancé avant la fin de l'année.
Voilà. Ce n'est pas un nouveau contrat de développement, c'est un plan de relance. Et qui dit plan de relance, dit urgence. Et donc, vraiment, ce plan de relance a pour objectif de générer des travaux, de générer le travail des salariés des entreprises calédoniennes dès cette année 2026. Donc le Premier ministre attend de moi que je sélectionne des projets qui démarrent en 2026 pour avoir un effet concret dès cette année sur l'économie calédonienne. C'est pour ça que je parle souvent de course contre la montre.
Et les financements sont déjà débloqués, les financements sont arrivés. Dès qu'une opération est concrétisée, est en œuvre, elle est financée.
J'autorise la collectivité a engagé l'opération en lui affectant, en tout cas lui notifiant les crédits nécessaires pour réaliser cette opération. Et ensuite, la collectivité a la possibilité de demander au service de l'État une avance de 30%. Donc, cette avance de 30% sert à lancer les premiers chantiers. Et ensuite, au fur et à mesure, donc, nous versons des acomptes aux entreprises au fur et à mesure de la production des factures qu'elles sont en mesure de nous faire valoir. Voilà comment ça se passe. Et bien sûr, ces acomptes, on les porte jusqu'à hauteur de 80% et à la fin de l'opération, on solde en versant le complément aux collectivités.
Et la vague 3, alors ? Parce qu'il y a une vague 3. Ça va être quand ? Et elle va être dotée de 5 milliards, je crois, à peu près ?
Oui, vous savez que le plan de relance prévoit un engagement total, je vous l'ai dit, de 2,4 milliards de francs. Nous en sommes aujourd'hui à la vague 2. Hein, nous avons, je dirais, vraiment lancé la consommation, en tout cas des deux tiers de l'enveloppe prévue pour le plan de relance. En la matière, je vais être très clair, je souhaite vraiment qu'on puisse consolider les projets lancés dans le cadre des vagues 1 et des vagues 2 avant de poursuivre la dynamique d'investissement avec la vague 3. Et j'ai prévu à ce titre de faire le point avec les collectivités et le monde économique d'ici le mois d'octobre pour savoir où on en est, qu'est-ce qu'on a produit, je dirais, de positif avec les vagues 1 et 2 avant d'envisager de définir les conditions de lancement de cette vague 3. Je le ferai, bien sûr, après avoir rendu compte des effets positifs du plan de relance au Premier ministre lui-même.
Mais justement, on en est où ? L'économie calédonienne a été complètement effondrée il y a un peu plus de deux ans maintenant. Est-ce que vous avez le sentiment que le territoire commence à se redresser doucement, ou est-ce que la situation est toujours extrêmement catastrophique ?
Oui, je vous le répète, les appels d'offres lancés au titre de la vague 1 mobilisent d'ores et déjà 106 entreprises attributaires de travaux. Donc la dynamique se met en place. Je le répète, il faut accélérer, il y a urgence. Les acteurs économiques calédoniens n'ont pas le temps d'attendre et ils espèrent vraiment beaucoup de notre engagement collectif en ce sens. L'État, bien évidemment, mais aussi, vous le savez bien, toutes les collectivités. Et l'indice du climat des affaires est à ce titre une preuve, je dirais, intéressante à appréhender, puisque son redressement progressif après les émeutes de 2024 s'inscrit dans un environnement de soutien massif, notamment de l'État, pour assurer la continuité des services publics. En 2025, je rappelle que les interventions totales de l'État se sont élevées à 337 milliards de francs, ce qui représente quand même 35% du PIB calédonien. Et vous voyez que ces interventions massives de l'État se poursuivent en 2026 dans le cadre du pacte que je viens de rappeler il y a quelques instants. Et dans ce contexte, eh bien, on voit que l'indice du climat des affaires augmente à 99,3 au premier trimestre 2026, alors qu'il était de 65,9 au deuxième trimestre 2024 dans le sillage des émeutes. Mais j'atténue mes propos en disant que cet indice de climat des affaires reste encore bien en deçà des niveaux observés entre 2021 et 2023, où il se situait entre 100 et 110. Donc il y a encore du travail à faire pour redresser le territoire à son niveau du début des années 2020. Et le pacte doit y contribuer avec l'engagement de tous, pas simplement de l'État.
Monsieur le Commissaire, nous arrivons au terme de cet entretien, mais quand même, je suis obligé de demander un mot sur l'avenir institutionnel, où là encore, il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, le Premier ministre avait envisagé une reprise des discussions en juillet, ce ne sera pas le cas, manifestement. Beaucoup d'élus, de responsables, semblent renvoyer la reprise de ces discussions à la période post-présidentielle, voire post-législative. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ? Est-ce qu'elles vont reprendre et quand ?
Alors, le Premier ministre avait dit très exactement à tous les élus de se mobiliser et de rester mobilisés dès après les élections provinciales. Aujourd'hui, donc, nous mettons en place, enfin, nous voyons la mise en place des nouvelles institutions. C'est fait pour le Congrès. Ça sera le cas, je dirais, pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en fin de semaine prochaine. Et je crois qu'à partir de là, effectivement, il faudra appréhender les enjeux de calendrier, de méthode, avec les nouveaux responsables pour définir la façon dont les acteurs, en lien avec l'État, entendent poursuivre les discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Donc encore un peu de patience jusqu'à la mise en place totale des institutions et un cadre donc très, très précis pour pouvoir travailler sur ce sujet important.
Vous pensez crédible qu'elle soit reprise avant l'élection présidentielle, ou c'est trop tôt pour le dire ? On attend la décision du Premier ministre ?
Oui, c'est trop tôt pour le dire. Je crois qu'il va y avoir vraiment un dialogue entre les nouveaux responsables calédoniens et le gouvernement sur le sujet. Donc nous le saurons, je dirais maintenant, assez vite, puisque la fin de l'installation des institutions approche à grands pas, et on l'attend tous, bien évidemment, avec impatience.
Monsieur le commissaire, merci d'accepter votre invitation dans ce magazine Transparence.
C'est moi qui vous remercie.